Salut, c'est Gringe.
Salut, c'est Lajli. Vous écoutez Pop Pop Pop.
Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop popienne, pop popien et tous les autres aussi, bonjour. Je vous le dis franchement, je ne suis pas mécontent de terminer cette éprouvante semaine en musique. Elle a commencé par un enterrement, elle se termine avec l'arrivée de Donald Trump à Paris pour célébrer la fin des hostilités de 14-18 et donc accessoirement la mémoire du maréchal ainsi que celle de sa maman. Oui, puisque dans les cours de récré de mon enfance, on le surnommait le fils de Pétain. En souvenir de son attitude aussi digne que remarquable au moment de la visite surprise de nos amis Fridolin en 1940. Oui, voilà une semaine qui s'achève en fanfare et c'est pourquoi nous avons choisi de célébrer ça avec l'idée que nous nous faisons d'une fanfare, à savoir l'association d'un remarquable percussionniste et d'un non moins remarquable violoncelliste. Étrange attelage, me direz-vous, aussi inattendu que celui d'une carpe et d'un lapin et d'un chasseur et d'un jogger et d'un unijambiste et d'un sauteur à la perche, d'une perche et d'une carpe, les deux partageant le même étang, on retombe sur nos pattes. En tous les cas, les deux de Boomchello partagent le même temps puisqu'ils font de la musique ensemble, et ce temps-là, nous allons donc prendre le temps d'en parler. Boomchella, Boomchello, et l'invité...
Coachella à Boomchello.
Allez, c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
C'est pas possible ce nom non plus. Bon, on va en reparler de toute façon. Ouais. Ça. Bon, écoutez, Charline Roux, bonjour Charline.
Oui, c'est mon nom. Bonjour
oui,
Antoine.
Oui, c'est votre
bonjour
vrai
messieurs.
Nom. Bonjour. Au menu de Pop Pop Pop, un groupe pop, un groupe fait, tout comme cette émission d'ailleurs, de briques et de broc, selon ses fondateurs. Bonjour Vincent Segal.
Bonjour.
Et Cyril Atef.
Bonjour.
Bonjour messieurs. Boomchello donc. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter Monster Talk, votre 8e album. Alors ici, vous le savez, nous aimons l'exactitude. On sait que cello, ça signifie violoncelle, instrument avec lequel vous excellez, Vincent. Oui, ok, mais boom, c'est pourquoi
ça veut boom, dire... ça veut dire fesses.
C'est fesses.
Ah oui, des belles fesses.
Des belles fesses, vagabond aussi peut-être.
Vagabond aussi, vagabond mm-hmm. céleste.
Mais alors, comme vous, vous êtes percussionniste, pourquoi pas drum cello?
Parce qu'au début, ça devait être drum and cello qu'on a commencé le groupe en 99 au CTR. C'était la mode du drum and bass. Mm-hmm. Donc, on a dit drum and cello. Bon, c'est un peu bateau. Mm-hmm. Allez, bum cello, ça
bum
sonne bien.
Cello. Okay. D'accord. Une fesse et un violoncelle, donc. Au menu également de Pop Pop Pop, notre vagabond de la pop culture et amateur de fesses de vagabond, mais pas que, Ronan Crowe. Notre chroniqueur nous plongera dans l'univers du film et vêtements de J.K. Rowling qui sort la semaine prochaine, Les Animaux Fantastiques 2. On va en parler tout à l'heure. Et comme nous sommes vendredi, nous ferons également un détour par la planète pop d'Alexandre Verret pour notre dose hebdomadaire de n'importe quoi.
Oh, tu sais, Pinocchio, tu as été un très vilain petit garçon. Eh ouais.
Mais avant ça, Vincent Segal, Cyril Atef, avant de parler de vous avec vous, écoutez-moi, moi, car oui, j'ai une question que je pose depuis plus longtemps que le père Fouras avec sa clé en forme de carotte qu'il balance à la mer en cas de mauvaise réponse. C'est bien ce qui risque de vous arriver si la réponse à la question que je vais vous poser ne me convient pas. Vous êtes prêts? Cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables, et parmi mes préférées, il y a celle du chanteur M, avec qui vous avez tous les deux travaillé. Écoutez.
Je dirais que c'est pour moi bizarrement l'art majeur. Justement, je pense à Serge Gainsbourg, je pense à Coluche, Prince, Stevie Wonder, c'est-à-dire des gens comme ça, pour qui c'est très accessible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous va droit au cœur, qui est très universel et en même temps d'une subtilité absolue. Et je crois que les grands artistes, c'est ceux-là, c'est ceux qui réussissent comme Mozart ou plein d'autres, c'est-à-dire à synthétiser quelque chose pour que ça paraisse très très simple, alors que c'est vraiment d'une complexité rare.
La pop culture, selon M, mais pour vous, c'est quoi la pop culture, Cyril Atef?
Moi, bon, c'est un souvenir de petite enfance, que mon premier vinyle acheté à Berlin, ma ville natale, et c'est une compilation. Il y avait Suzy Quatro, il y avait plein d'artistes, Slade, et surtout Peter Gabriel, le morceau Salisbury Hill. Et ce morceau, je sais pas, j'avais 6-7 ans, premier vinyle acheté, et ce morceau, il m'a marqué profondément. C'était un morceau pop, très pop, mais en 5. C'était pas du 4-4, c'était du 5-4. Donc voilà,
vous parlez de rythmique là, ça y est.
Oui, la rythmique, voilà. Moi, je suis un batteur.
Oui, c'est
je suis un batteur, mais j'aime bien j'aime beaucoup les chansons pop avec des rythmiques un peu décalées, mesures composées, en fait.
Vous souvenez, voilà. Charline?
Là, je me souviens très bien, mais étrangement, je reconnais moins. J'aime bien votre version aussi, Antoine.
Merci. Et vous, Vincent Segal, c'est quoi pour vous la pop culture?
Alors, j'ai une espèce d'allégorie. La pop culture, c'est dans le fond et la forme. C'est le moment où John Lennon donne une leçon à Phil Spector de pop culture au sens propre. C'est-à-dire qu'il lui montre, en chantant, comment il bouge sa bouche pour que ça fasse pas de pop. Parce que quand on chante, en fait, ça fait des pop. Et dans un enregistrement, surtout quand c'était des enregistrements analogiques, ça ruinait l'enregistrement. Et en fait, on a l'un en face de l'autre dans Imagine, dans le making of, c'est très beau. On voit John Lennon qui a tellement de réflexes d'avoir chanté depuis la fin de son adolescence, qui bouge tout le temps là, s'il fait un F ou un P ou un. Mm-hmm. Et il montre à Spector qui est en face avec ses lunettes noires. Et la pop culture, c'est de voir cette explication entre deux personnes, une qui finira tuée, l'autre qui finira tueur. Mm-hmm. Je trouve ça assez fort. Pour moi, c'est ça la pop culture.
Comment faisait-il John Lennon pour éviter de faire les pop?
C'est-à-dire, quand on le voit chanter en permanence, il change l'angle de sa bouche par rapport au micro, c'est-à-dire suivant ce qui va arriver, les consonnes, les trucs. Et ça, c'est des réflexes de métier. Donc ce que j'adore aussi pour moi, l'idée de la pop, c'est un truc où on a l'impression que c'est simple. Et en même temps, derrière, il y a beaucoup de métiers. Mm-hmm. Mais après, je pourrais dire aussi que j'ai jamais fait partie de la pop, puisque quand j'étais gosse, adolescent, à chaque fois que je mettais un disque, par exemple Charlie Parker, pour faire danser dans une soirée, on me virait. Et donc, les vrais pop, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais été pop, en fait.
Très bien, non, mais votre définition me convient quand même. Vincent Segal, Cyril Atef, on va continuer à parler de culture, de pop et de pop culture. Juste après le premier morceau de l'émission, c'est Tata Fatigué du groupe Melting Pop, justement, Voodoo Game. Ah. We'll be right back. Matata Fatigué du groupe Vodou Game. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du groupe Bombcello. Alors avant de passer à votre pop portrait, pouvez-vous m'apprendre à prononcer correctement le nom de votre groupe? C'est Bombcello, c'est pas Bombcello.
Exactement.
Parfait.
Bombcello.
Bombcello, ouais.
Bombcello.
Tu l'as.
D'accord, c'est pour cette raison que vous avez appelé un de vos albums Al, pour que les gens puissent dire Al Bombcello.
Al Bombcello.
Ça fait un peu groupe italien dans ce
Al, coup. C'est, Al, c'est, bon, Al, c'était notre... 10 précédents, c'est aussi parce que c'est LA, parce que j'ai grandi à Los Angeles. Et Al, bon,
Al,
y a
Green.
Al Green.
Bon. D'accord, donc.
Yeah. Al Cooper.
Ouais. Ok, donc c'était l'album Cello, c'est malin. Et comme dirait très bien François Pignon.
Ouh. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Bien, maintenant, passons à votre pop portrait. Alors, votre pop portrait, eh ben, c'est évidemment votre portrait, mais.
À base de pop, pop, pop.
Et c'est signé Charline.
C'est un peu court aujourd'hui, je trouve. Nous recevons aujourd'hui un duo dont l'un pense de leur projet commun qu'il est une vaste mascarade, Vincent, alors que l'autre l'annonce comme un grand carnaval, Cyril. Notez que pour les deux, il est préférable de venir costumé, alors l'un en musicien sérieux, quoique facétieux derrière son violoncelle, l'autre en troubadour qui ne tape pas que sur des bambous, et c'est quand même numéro un. Ensemble, ils sont donc Bombcello, duo musico-fessophile au rythme divers et varié, porté sur l'impro et couronné en 2006 d'une victoire de la musique catégorie Electro Groove Dance. Et ce beau roman, cette belle histoire, je cite, de musique industrielle pour le tiers-monde, fin de citation, ça fait presque 20 ans que ça dure. Un pop-pop-pop résolument pop, mais rock, punk, funk, soul, metal, boléro, raga, électro, steel drums, world et rap, comme disent les millennials ou Antoine de Caunes, ce qui est sensiblement la même chose, hein. Ça devrait pulser.
C'est vrai, je dis ça, moi. Alors, Bombcello, c'est une vaste mascarade ou un grand carnaval, comme vient de le dire Charline?
C'est-à-dire... L'idée qui est géniale, c'est d'être imposteur à la base tout de suite, parce qu'en fait, quand on a commencé à jouer dans un club, on cherchait un endroit pour jouer le soir, et on a dit, ouais, vous avez pas besoin de DJ, on peut vous faire les DJ, sauf qu'on enchaînera des disques, mais en fait, on les fera en direct, c'est-à-dire qu'on les improvisera en direct. Donc le cahier des charges, pour nous, c'était d'être totalement, de tout le temps improviser, et en même temps que les gens dansent quand même. C'est ça la difficulté.
Vous avez tenu combien de temps le premier soir?
On a joué beaucoup.
On faisait deux sets au CTA, mais chaque fois, au moins deux heures chaque set, quoi. Une heure et demie, deux heures de set, ouais.
On disait les gens entre, c'était un copain camerounais qui disait les gens entre célibataires et sortent mariés. À l'époque,
exactement.
C'était ça,
bien, on va en reparler dans quelques instants, mais d'abord, Bombcello, aimez-vous le limoncello? Appréciez-vous Marcello? Mastroianni, encore plus de questions éminemment profondes dans la suite de l'émission, mais commençons tout de suite avec votre pop list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Vincent Segal, pour le livre culte, vous avez choisi Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, rédigé entre 1809 et 1841, publié en 12 volumes entre 1849 et 1850. Charline, rassurez-moi, on parle bien ici de l'écrivain, hein, pas de la pièce de bœuf.
Oui, car il ne vous a pas échappé que nous sommes des bobos véganes ici, pour cette radio, donc forcément. Et pour ce qui est de l'ouvrage, il compte 12 volumes, alors qu'à l'origine, Chateaubriand ne comptait pas écrire ses mémoires. Tout a changé grâce à ceci. C'est pas une blague. Le chant d'une grive lors d'une promenade au parc Montboissier qui rappela à Chateaubriand toute son enfance et le remit à l'ouvrage. Moralité, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ni sur la grive musicienne.
Bien, merci Charline. Alors avant de nous dire pourquoi vous votez pour Chateaubriand, comme on dit dans Danse avec les stars, pouvez-vous nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails, leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m'affligea la vie, la tempête dont le bruit perça mon premier sommeil, le frère infortuné qui me donna un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. Le ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image de mes destinées.
C'est beau, ça on voit. C'est magnifique. Pourquoi votez-vous pour Chateaubriand, Vincent Segal?
Parce que c'est quelqu'un que j'ai détesté toute mon adolescence sans jamais le lire. Le nom me faisait peur, le titre me faisait peur. Et en fait, grâce aux nouvelles technologies, en musicien, en tournée, je peux vraiment... j'adore lire. Et souvent, j'ai en tournée emmené beaucoup de livres un peu américains qui se lisaient très vite. Je pouvais changer de livre en venant le dimanche soir. Et en fait, avec le numérique, j'ai pu reprendre Guerre et Paix et Les Mémoires d'Outre-Tombe. Et en fait, j'étais propulsé sur une autre planète par les deux. Et en particulier Chateaubriand, parce qu'en fait, il y avait énormément de choses où je sentais une certaine connivence. Il y a des moments incroyables. En particulier, je pense à ce moment où son père l'envoie aux Amériques. Mmh. Et en fait, il est tout adolescent. Et en fait, son père lui dit « Ouais, tu pourras aller voir Washington. » Et il parle à Washington, qui l'ouvre en robe de chambre, en disant oh, « Tu sais, je suis un peu occupé, là, mais c'est gentil de venir me dire bonjour. » Et je trouve ça incroyable. Et la Révolution française, la période de Napoléon, des choses sur des femmes aussi. Et en fait, c'est très... Comme là, on vient de le lire, enfin, c'est toujours une écriture très claire. C'est-à-dire.
Oui, c'est une écriture absolument sublime.
Je suis du coup allé voir... le château où il a grandi, où son père l'avait isolé dans une tour, il avait dit voilà, pour te forger, tu vas vivre tout seul, enfant, dans cette tour, et nous, on sera dans l'autre tour. Et là, on comprend énormément de choses.
C'est fou. C'est
Chateaubriand. Alors, Vincent Segal, nous vous avons demandé quelle était votre série culte, et vous nous avez répondu Néant. Et un membre de l'équipe de Pop a quand même osé demander, mais alors Vincent Segal, il a répondu Néant pour la série, ça veut dire qu'il ne regarde pas de série ou qu'il y a vraiment une série qui s'appelle Néant? Eh oui, c'est Simon Arestat. Bien, voilà, merci pour ce moment de gêne. Passons donc à votre série, Cyril Atef. Et cette série, c'est Trémé. Série créée par David Simon et Eric Overmeyer, diffusée sur HBO entre 2010 et 2013. Charline, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe à Orléans, je crois.
Alors, pas loin en tout cas. Cette série raconte la Nouvelle-Orléans, mois après l'ouragan Katrina. Et j'imagine, Cyril, que ce choix n'a rien à voir avec le fait qu'on croise aussi dans la série Fats Domino, Steve Earle, Elvis Costello, Trombone Shorty ou encore les Neville Brothers.
Cyril Atef, pouvez-vous convaincre Vincent Segal de regarder Trémé plutôt que Néant?
Là, tout de suite. Direct, faut que tu regardes. Les trois saisons, je crois qu'il n'y a même pas de quatrième saison. Bon, ça me rappelle, moi j'ai vécu 3 mois à la Nouvelle-Orléans en 85. J'étais avec un groupe afro-américain. Je suis parti en tournée. Et cette ville m'a profondément marqué. Hein. Je traînais vraiment avec tous les musiciens locaux. J'ai rencontré les Neville Brothers. Donc c'est un souvenir. Et de voir cette série, ça me rappelle des choses. Quoi. Même avec toute la destruction, avec Katrina et tout ça. Mais c'est une série pour des musiciens. Tous les musiciens devraient regarder ça. Ça fait chaud au cœur.
Et bien, tous les musiciens vont la regarder grâce à vous. Vincent Segal, je reviens à vous. Pour le film culte, vous ne répondez pas Néant, mais Meurtre d'un bookmaker chinois de John Cassavetes, sorti en 76. Charline, tu es un bookmaker, je peux comprendre, mais pourquoi chinois?
Parce que Cosmo Vitelli, patron d'une boîte de striptease très très endetté, est contraint par la mafia de tuer un bookmaker chinois. D'où le titre, ce qui est assez malin finalement. I've been loan sharked to death. And now, ladies and gentlemen, the Crazy Horse West is proud and pleased to present to you a new guest entertainer, Mr. Tony Imaccio. Take it away, Tony. Vincent Segal, c'est votre goût du meurtre qui vous fait aimer ce film?
Pas du tout. D'ailleurs, c'est vraiment le truc, la partie la moins importante, enfin pas importante, mais la moins marquante du film. Et c'est ça que j'adore dans ce film. En fait, ce film, j'ai vu, ma femme, elle devenait folle. Elle disait, tu remets ça encore. Et en fait, pour moi, c'était vraiment... j'avais Cassavetes, je voyais dans sa boîte. Et l'amour qu'il portait, je me souviens quand il appelle dans cette cabine téléphonique et qu'il dit « Is this the Paris number ?» Il dit « Oh yeah, Paris » qui est écrit sur les lettres. Et puis, il parle de la chanson « I love Paris ». Non, c'est plus « I love Paris ». Enfin, il chante une chanson dans la cabine téléphonique. Et en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui essaie de tenir son entreprise artistique. Ouais. Alors, c'est un pipe show, mais ça pourrait être un producteur de film. C'est toutes les galères. Il joue aux cartes, il perd tout. Donc, il sort et plutôt que de pleurer en disant « J'ai tout paumé », il offre des orchidées noires à toutes ses copines. Et elles sortent avec toutes ces fleurs magnifiques. Il y a 5 copines dans un Cadillac. Et en fait, je repense à des amis qui ont fait des films et qui m'ont dit, ouais, les gens pensent qu'on avait tout le temps du succès, mais des fois, on a hypothéqué nos maisons parce qu'on avait le film qu'on avait sorti a été, on était en faillite. Et là, on sent dans le film, le mec avance, qui s'est pris une balle, mais on voit pas qu'il saigne pas. Il va voir sa copine, il dit, ouais, ça va. Et ce film, en fait, c'est un film optimiste et triste.
Meurtre d'un bookmaker chinois de John Cassavetes. Bien, il me manque une chanson pour terminer cette pop-list. Cyril Atef, vous avez choisi celle-ci.
Hook on the corner, waiting for a train. Just lying on the sidewalk, sleeping in the rain.
Randy Newman, Baltimore, c'est extrait de Little Criminals, sorti en 1977. Alors Cyril Atef, je suis Randy Newmanophile, mais tentez quand même de me prouver que vous l'êtes plus que moi.
Oh non, je peux pas être plus que toi. Non, cette chanson me touche depuis très longtemps, la version de Nina Simone, la version de Sly and Robbie. Le texte est très très beau, sur cette ville que je connais pas, Baltimore. Je peux même pas expliquer, la mélodie et le texte me touchent, quoi.
Et puis Randy Newman, auteur aussi.
Oui,
pas seulement
je
compositeur.
Je trouve qu'il n'est même pas assez reconnu comme auteur et compositeur. Moi, je l'ai découvert quand j'étais jeune avec I Love LA. Je vivais à Los Angeles. Voilà, cette chanson, je peux dire, elle me touche depuis très longtemps.
Bah, sans c'est drôle parce qu'en plus, chose. David Simon, il est de Baltimore aussi.
Ouais, donc,
t'as pas fait gaffe. Mais... Oui. Par contre, moi, ce qui est drôle, c'est que j'avais dormi chez Randy Newman et je l'ai vu. Mais à l'époque, je le connaissais pas du tout. Et j'avais même râlé. On était en tournée et il y avait son fils, Amos Newman, c'était notre tour manager. Et il y avait plus de chambre d'hôtel. Il a dit, ouais, tu vas devoir dormir chez mon père et tout. Et moi, j'ai râlé. J'étais là. Bah non, pourquoi?
C'est un gros râleur.
Ça fait chier. Parce que moi, je voulais avoir ma chambre pour être tranquille.
Et ça vous apprendra.
Et en fait, ils venaient voir et tout. Et après, mes copains m'ont dit plus tard, ils m'ont dit, tu sais, tu avais dormi chez Randy, parce que je mettais du Randy Newman. Ils m'ont dit, mais j'ai aucun souvenir. Enfin, je me souviens pas.
Attendez, vous avez dormi chez Randy, vous n'avez pas dormi avec Randy.
Non.
Non, c'est une nuance, oui.
Mais par contre, moi, je suis, Cyril, en fait, je suis fanatique, pareil, de Randy Newman. Et surtout, les textes, les harmonies et ses arrangements avec l'imitation d'Alfred Newman, son oncle.
C'est quoi, Short People, l'autre morceau? Short People?
Non, ça c'est encore après, mais moi, pour moi, c'est l'album qui s'appelle Randy Newman avec David the Fat Boy. David the Fat Boy.
Sortez pas l'album. Il y a Cyril Atef. Je résume, Chateaubriand, Trémé, Néant, Meurtre d'un bookmaker chinois et Randy Newman. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça pour vous deux.
Le mugissement des vagues soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne.
I've been loan sharked to death.
And now, ladies and gentlemen, the crazy horse fest.
On m'a souvent conté ces détails, leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire.
Ouais, bon mix.
Hein, c'est pas mal. C'est un peu comme votre groupe, c'est fait de briques et de broc.
Exactement.
On est d'accord? Bien. Bombcello, avant de parler de Monster Talk, votre nouvel album cello. Écoutons justement un extrait avec le morceau Monster Talk, par exemple. We're talking now, mumbling the words, hell of a noise, can't understand.
Listen to me.
Monster Talk dans Pop 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 sur France Inter. Cet extrait de Monster Talk, le nouvel album de Bombcello, nos invités d'aujourd'hui, et surtout le huitième d'une histoire qui dure depuis maintenant 20 ans. Alors juste avant de commencer, précisons pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris que vous n'êtes pas tout à fait un groupe comme les autres. D'abord, vous êtes deux, comme Stone et Chardin, mais surtout, vous ne faites rien comme tout le monde. Par exemple, vous enregistrez un album, mais ce n'est pas pour autant que c'est ce que vous jouerez en concert, par exemple, dans 3 jours à la Maroquinerie.
Exactement.
C'est étonnant, non?
Ouais, on sait même pas ce qu'on va jouer.
Oui, c'est-à-dire le principe qu'on avait donné depuis le début comme dogme et qui nous a toujours plu, c'est de jamais... On a fait un seul concert dans notre vie, on a rejoué les morceaux de Bombcello avec des amis, des invités. Mm-hmm. Mais le principe de base, c'est jamais mettre d'ordre, jamais de chansons. Par contre, les chansons apparaissent des fois. C'est-à-dire que de temps en temps, j'entends Cyril commencer une chanson et là, je peux le suivre ou pas. C'est-à-dire que je peux dire, oh, je vais faire un remix direct. D'ailleurs, un festival, une fois en live, un gros festival, ça nous arrivait des fois sur des grosses scènes, on entend l'autre groupe jouer à côté. Mm-hmm. Et tu te souviens, Sayan Supakru, un groupe comme ça qui jouait il y a longtemps.
On a enchaîné.
Et comme Cyril avait déjà fait des studios pour eux et tout, et comme on jouait en même temps, on les entendait tellement fort qu'on a dit aux gens, on va improviser des remixes en direct de Sayan Supakru parce que ça servait à rien d'essayer de jouer une autre musique. Donc là, on a complété ce qu'il jouait, en fait. C'est super drôle comme concert.
Oui, ils le savaient pas, hein.
Oui.
Mais ce principe d'impro que vous appliquez sur scène, c'est pour ne pas vous ennuyer, vous, quand vous êtes sur scène, ou c'est par souci du public et de surprise?
Non, parce qu'on adore improviser. Mais moi, j'adore jouer avec des groupes où il y a des morceaux écrits, tout ça. Oui. Mais.
C'est par paresse.
Ouais, on est des feignasses, ouais.
Non, mais il y a aussi le fait d'avoir eu beaucoup de... Je détestais en tournée, par exemple avec Mathieu, ce qui me plaisait vraiment avec Mathieu, c'est quand on était à trois. Pardon, Mathieu, il était hyper ouvert sur ça, c'est-à-dire qu'on montait, il avait des listes de chansons, mais ça partait, c'est-à-dire qu'à un moment d'une chanson, on pouvait faire une diversion de 10 minutes, et tout le monde était content, et le public était content aussi. Et en fait, j'ai trop vu des groupes faire des tournées et jouer exactement la même setlist. On les voyait préparer, ranger le matériel, ils avaient fini, on savait que c'était fini, les rappels étaient déjà préparés et tout. Et mon idée justement du rock comme j'aimais, c'était par rapport à la musique classique, c'était cette folie que je sentais sur scène, c'était pas l'idée des morceaux, c'était qu'est-ce qui se passait quand même dans la transe. Et même des groupes qui faisaient des morceaux de 3 minutes, c'est la façon dont ils les faisaient, on sentait que c'était pas une liste, il y avait une énergie.
Alors vous parlez de M, mais Bombcello, en 20 ans, vous avez collaboré avec M, comme vous le disiez à l'instant, mais aussi avec Ben Harper, Vanessa Paradis, Cesaria Evora, J'ai Mami et bien d'autres, et aujourd'hui vous venez nous présenter votre 8e album, je le rappelle, il s'intitule Monster Talk. Pourquoi Monster Talk? Comment le traduire? Conversation de monstres?
Ouais, conversation de monstres, j'ai pensé à ce
attendez,
morceau.
Attendez. Vous voulez vraiment avoir une conversation avec un monstre?
C'est des monstres pour
non,
les
en
enfants,
fait,
là.
En fait, ce que j'ai pensé quand j'ai trouvé ce titre, c'était notre époque, là, où on est tous sur les smartphones et les réseaux sociaux. Je voyais des millions et des milliards de monstres en train de tweeter, en train de lâcher des
petites
phrases.
Ce que vous appelez l'ogre numérique.
Voilà, voilà. Voilà, le darknet, ou tout le net, quoi. C'est des petits monstres quoi qui s'invectivent aussi beaucoup. Donc pour moi c'est comme des grands des petits monstres. On vit dans une époque un peu spéciale quoi.
Et ce ne sont pas les seuls monstres auxquels vous faites référence, sauf erreur de ma part. Il est aussi question du président Orange, de l'Europe qui part un peu en miettes. Est-ce que c'est un album qui est un peu plus sombre que les précédents?
C'est pas fait exprès, mais bon, c'est sorti comme ça, hein.
Voilà. Non, je pense que on a toujours des morceaux assez sombres dans les albums. Et après, sur Monster Talk, c'est l'histoire de ce grand nuage numérique aussi. C'est comme un langage de 1 et 0. C'est pour ça que sur la pochette, on a mis des 1 et des... Enfin, je trouve ça assez drôle que tout soit résumé à 1 et 0. Et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, des horreurs ou des choses super belles, ça passe par ça pour tout le monde maintenant.
Monster Talk, c'est votre 8e album, Bombcello. C'est un groupe qui a été créé il y a 20 ans, en 99, à l'époque où Céline Dion cartonne avec Pour que tu m'aimes encore, Elton John avec Can You Feel the Love Tonight, et Off El Eye avec ça. Est-ce que c'est pour compenser ces naufrages musicaux que vous avez eu envie de créer Bombcello?
Non, c'était pas en opposition, mais Oh, tu m'as cassé la vibe, là.
En fait, Cyril, il a une part la très Club Med en même temps. C'est ça que j'aime bien aussi.
Hein?
Toi, t'aimes bien aussi les trucs dance comme ça.
Ah ouais, moi, je suis un danseur. Moi.
Mais
un
justement, danseur, mais... vous écoutiez quoi, vous, à cette période-là? Parce que j'imagine pas ce qu'on vient d'entendre. Mais...
En 99, ouais. Qu'est-ce qu'on écoutait? Pas mal de hip-hop.
Moi, je sais ce que j'écoutais.
C'était encore l'époque un peu drum and bass, musique électronique, dub. Il y avait aussi toute cette scène de jeunes groupes français de dub. Des super jazzman aussi. Voilà.
Mmh. Moi, j'ai écouté Wu-Tang.
Ouais, voilà, Wu-Tang Clan. Ouais.
C'était la période Bobito et c'était des DJ de New York qui faisaient des lives en hip-hop qui étaient remarquables. Il y avait ça et puis voilà, l'invention d'une musique que j'ai toujours aimée qui est le trip-hop, vraiment.
Ouais.
Que j'aime toujours.
Décrire Monster Talk, c'est pour vous, je vous cite, hein, aussi illusoire que raconter un rêve agité. Alors, comme disent les psys, le raconter, ça mange pas de pain, c'est l'interpréter qui est coton. Qu'est-ce que vous en dites de ce rêve agité, vous?
Vas-y.
Aucun des deux veut y aller.
Non,
ah, je vous sens là. Réticent devant l'obstacle.
Déjà, l'agitation aussi sur cet album, elle est venue de Vincent Torel, qui est de la nouvelle génération et qui a enregistré ce qu'on faisait. Et en fait, ce rêve agité, c'est-à-dire quand l'idée, c'est à chaque fois qu'on enregistre, on a eu des écueils. Des fois, c'était de pas improviser comme on voulait, puisqu'on était obligé de faire un album et de faire des chansons. Et là, cette fois-ci, on a réussi vraiment à se laisser aller tous les deux. C'est la première fois où on s'est pas engueulé en studio du tout. Et parce qu'il y avait Vincent Torel, qui est de cette nouvelle génération un peu, et qui arrivait à s'occuper du boulot de production. Et c'était très agréable.
Parce qu'un médiateur, quoi.
Et du coup, c'est un album où effectivement. Il y a des choses qui se passent dans les notes que j'entends qui sont vraiment de l'ordre de l'imperceptible et c'est très agréable. C'est pas calculé, c'est pas...
Bien, Monster Talk, le 8e album de Bumcello. Vous allez en jouer un extrait dans quelques instants. Vincent Segal, Cyril Atef, vous savez faire plein de choses, on vient de s'en rendre compte, mais est-ce que vous savez faire ça? Ils savent le faire.
Ouais. Les deux. Parfaitement bien.
Les deux. Alors là, ça me laisse un peu sur le cul. Bon, très bien. C'était juste pour lancer les pop news. Ça y est, ils sont déchaînés. Allez-y.
Alors que vous soyez d'humeur... À moins que votre truc à vous ne soit plutôt... À moins que votre passion du déhanché ne vous emmène de ce côté... Bref, quelle que soit votre comédie musicale préférée, vous la trouverez dans 42e rue, la grande histoire des comédies musicales, bel et gros ouvrage signé de notre confrère Laurent Vallière, un ouvrage de référence si vous êtes en hashtag Passion Paris Londres Broadway, une coédition Marabout France Musique.
Parce que ça fait longtemps, parce que ça fait plaisir, parce que c'est toujours bien de profiter de la présence d'excellents musiciens pour mettre en lumière les mauvais. Revoilà Shitty Flute, cette chaîne YouTube qui pourrit à la flûte et au casou les grands classiques de la musique. C'est pour vous, c'est cadeau, Vincent Segal, Cyril Atef. Non, ne me remerciez pas.
J'adore.
C'est mortel.
J'ai toujours adoré ça. C'est comme Portsmouth.
Un avis d'expert sur cette 5e symphonie de Beethoven,
c'est comme les Shreds, tu connais les Shreds, c'est magnifique.
Oui, j'adorais Portsmouth Orchestra, c'était Brian Eno, il avait demandé à des musiciens d'orchestre d'intervertir les instruments, c'est-à-dire que le violon prenait le basson, le tromboniste prenait la harpe, et ils jouent ainsi par les Zarathustra, mais ils ne savent pas jouer leur instrument, mais ils savent le lire, c'est énorme, entends.
Ah ouais.
Aucun rapport, monsieur Link est un yéti. Il est fatigué de vivre seul dans le Pacifique Nord. Il engage un aventurier téméraire pour qu'il retrouve ses semblables dans la vallée de Shangri-La. C'est l'intrigue du prochain film d'animation de Chris Butler.
Legend tells of a lost species, a link between man and beast. For centuries, he's lived in hiding. But at long last, he's reaching out and ready to be found.
It's still there. Excuse me. Hi. You can speak. Yes.
Et précision qui a son importance en VO, celui qui prête sa voix à l'aventurier, c'est Hugh Jackman. Et le Yeti sera lui doublé par Zach Galifianakis. Le film sortira au printemps.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
C'est le Yeti également.
Exactement, bravo Charline. Bombshello, ne bougez pas avant d'accueillir Renan Crowe pour parler de baguettes magiques. Écoutons un peu de Johnny. J'aime beaucoup écouter Johnny sur France Inter. J'aurais pu choisir Jeanne Chéral ou Miossec, mais non, je préfère écouter mon Jojo avec un extrait de son album posthume Mon pays c'est la Hamour, et le morceau c'est Back in Erie. In LA, c'est Johnny Hallyday, bien sûr, extrait de son album posthume Mon pays, c'est la Hamour. Vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon Et nous sommes toujours en compagnie du groupe Bumcello et vient de nous rejoindre Renan Cros. Bonjour,
bonjour
Renan.
Bonjour tout le monde.
Alors, bonjour Renan. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, au prétexte qu'on reçoit un batteur, on va parler de baguette magique.
Oh.
À moins que ce soit une allusion plus personnelle encore.
Oh,
non,
Dieu,
vous n'avez pas
Dieu,
les bonnes infos.
Non, 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 je pense pas. Et oui Antoine, effectivement, vous savez que maintenant notre relation, ça fait quoi, un an et demi qu'on vit un peu cette relation radiophonique entre nous.
Elle dure,
elle est très belle.
Comme
il arrive un moment dans un... Non, je répondrai pas. À un moment dans un couple où il faut aborder des questions essentielles, alors Antoine, c'est le moment. Est-ce que vous êtes plutôt Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle? Je vous pose la question. Ça détermine notre amour naissant.
Bouffondor.
Ça n'existe pas.
Mais c'est n'importe quoi.
Il aime pas Bouffondor.
Parce que Charlie, je lui pose pas la question. Je sais qu'elle est Gryffondor. Mais oui, elle a cette aura qui émane d'elle.
Et vous... Non, il est clairement Serpentard.
Hein. Il est clairement Serpentard.
Clairement.
Antoine Decaune est Serpentard. Notez-le, la France, Antoine Decaune est Serpentard. Vous, ça vous parle, tout ça, Serpentard?
Quoi, c'est l'univers de Harry Potter?
C'est l'univers d'Harry Potter,
j'ai
évidemment.
J'ai pas vu un seul film de Harry Potter.
Je m'excuse. Autant sortir les avirons pour nous convaincre d'aller voir le
mais
nouveau.
Mais oui, surtout qu'en plus, ce n'est pas le nouveau Harry Potter qui sort,
oui,
mais
sais.
Les Animaux Fantastiques, les Animaux Fantastiques 2, dont l'avant-première mondiale a eu lieu hier soir à Paris, en très 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 grande pompe. Et évidemment, on l'a vu, on en parle.
De combien?
On a vu quoi?
Quelle pointure, les grandes pompes?
Oh mon Dieu.
Vous y étiez?
Oui, j'y étais. N'importe quoi. Ça sort mercredi prochain, ça s'appelle Les Crimes de Grindelwald, et on va rire de la blague d'Antoine Decaune, mais d'ici là, on va écouter la bande-annonce.
Des rumeurs. Grindelwald a eu une vision. Il s'est vu régner en maître sur le monde des sorciers.
Et vous sollicitez mon aide pour le pourchasser?
Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. À votre place, je refuserai probablement, moi aussi. Il est tard. Bonsoir, Norbert.
Oh, allons bon.
Ça fait peur.
Un peu gonflé Dumbledore quand même.
Ah mais oui, c'est Dumbledore qui
c'est
parle.
Dumbledore.
Mais oui, c'est Dumbledore, le jeune Dumbledore. Puisqu'il s'agit en fait d'un préquel aux aventures d'Harry Potter, il y a déjà eu un premier volet qui s'appelait Les Animaux Fantastiques 1, mais celui-ci s'appelle Les Crimes de Grindelwald. Mm-hmm. Et ça se passe dans Paris en 1927 et quelques à l'aube des années 30 en fait. Et on suit donc Norbert Dragono, alias en anglais Newt Scamander, un jeune homme passionné de zoologie magique qui va se retrouver au milieu d'un complice fasciste de sorciers. C'est quand même pas mal ça. Et le fasciste en question s'appelle Grindelwald, il est joué par Johnny Depp et il fait très très peur, mais surtout il a une histoire trouble avec Albus Dumbledore. Et je pense qu'on peut demander à Antoine Decaune de savoir qui est Albus Dumbledore.
C'est pas le copain de Johnny Depp dans le film?
Non, c'est un peu le copain de Johnny Depp, mais c'est surtout, alors Charline lui souffle, c'est pas bien.
C'est le patron de Poudlard.
C'est le patron de Poudlard,
mais
effectivement,
oui, enfin.
Qui est joué par un John Jude Law. Alors le film est vraiment un événement, on va suivre donc les aventures de Norbert Dragono. Est-ce que c'est un bon film? Eh ben, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est à nouveau écrit par J.K. Rowling.
Alors attendez, attendez, je vous interromps parce que il y a un cousin.
Ah oui, c'est une breaking news.
Hein, oui.
Breaking news.
On l'annonce tout de suite ou pas?
Non, c'est cousin de Cyril.
Avant que vous démolissiez le film.
Oui.
C'est chier quand même.
Il paraît qu'il y a votre cousin dans le film, c'est vrai?
Cousin de Cyril, oui.
C'est vrai.
Et qui joue Youssouf Kama. Qui s'appelle William Nadilam, c'est ça?
Grand, grand comédien.
Et dont on ne peut pas parler du rôle, parce que c'est un des rôles secrets du film.
Donc okay, on dit rien, alors.
On dit rien, mais il est très bien dans le film.
Alors maintenant, démontez-moi le film.
Ben, en fait, le problème du film,
non,
c'est
qu'on va
pas le démonter, c'est un peu compliqué. C'est que c'est un film extrêmement brouillon, avec beaucoup, beaucoup de choses. J.K. Rowling a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on est un peu perdu. Si vous n'avez pas revu le 1, vous allez être complètement paumé au début du 2. Mais, malgré ce côté brouillon, il y a un truc qui est indéniable, c'est son savoir-faire et son savoir-faire thématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Crimes de Grindelwald, c'est un film qui parle d'aujourd'hui. De quoi elle parle en fait? De la montée du fascisme, de la montée des extrémismes et tout. Et pour ça, en fait, qu'est-ce qu'elle a en tête? Elle a en tête Trump, évidemment. Elle a en tête tous ces montées identitaires qu'elle traite par la figure du sorcier. Il y a vraiment dans le film une noirceur. Alors il faut le dire, c'est vraiment le film qui va déprimer vos kids. N'emmenez pas vos enfants. Enfin, vraiment. Et elle le dit d'ailleurs assez clairement au début du film par une scène assez choc. Ce n'est plus un film pour enfants. C'est un film sur la montée du fascisme. Le fascisme aujourd'hui, le fascisme à visage humain. Et donc, elle traite ça avec une colère. On sait que J.K. Rowling, elle est extrêmement véhémente.
Ça attire quand même plutôt les enfants,
et
le prequel d'Harry Potter.
Eh ben non, c'est pas complètement vrai. Parce que justement, Harry Potter a grandi avec son public. Mm-hmm. Et c'est ce qu'elle montre, en fait, avec ses Animaux Fantastiques 2. Elle prend un risque. Hein. On est d'accord que le film est extrêmement noir, extrêmement sombre. Les précédents l'étaient aussi.
Les derniers Harry Potter sont très, très noirs, quand
oui,
même.
Oui, mais là,
hein,
ça l'est encore plus. C'est-à-dire que les précédents, c'était vraiment le jeune héros qui se battait contre Voldemort. Et Voldemort, c'était la menace qu'on ne voulait pas voir revenir. Sauf que là, la menace, elle est là. Et que la menace, elle est séduisante. Okay. Et c'est ça qu'elle raconte. C'est comment, finalement, le fascisme séduit. Toute la fin du film, c'est une allégorie de ça, une allégorie contemporaine. Quelle est la place du merveilleux là-dedans? Eh ben, il y en a quasiment pas.
La place du merveilleux.
Il y en a quasiment pas, en fait. Ce qui est un peu compliqué, ce qui est un peu décevant pour le public, mais ce qui est très fort pour le public adulte, c'est que les animaux fantastiques, eh ben, ils sont un petit peu dans le coin. Ça donne un film, à mon avis, très impressionnant, très puissant. C'est un blockbuster vénère et très en colère. Mais ce n'est pas du tout un film joyeux et c'est pas du tout un film merveilleux.
D'accord.
Pour ça, on peut, voilà. Mais.
Renan, vous auriez un film encore plus sombre à nous recommander?
Oui, j'ai un film encore plus sombre.
Je vous laisse une minute.
Parce que cette thématique du fascisme et de la sorcellerie, c'est également au programme mercredi prochain du remake de Suspiria de Lucas Guadagnino. On se souvient, Suspiria, en musique, ça ressemblait à ça.
Lorsque l'on danse la danse d'un autre, on se fait à l'image de son créateur. Trois mères, trois dieux, trois démons. Mère Tenebrarum.
Donc ça, c'est la bande-annonce du film de Lucas Guadagnino. C'était un film de Dario Argento. Et ce que fait Guadagnino, c'est qu'il reprend justement cette école de danse hantée. Vous avez vu Suspiria de Argento?
Non, j'ai raté. Mais,
vous devriez le voir, c'est un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Ouais, Guadagnino en refait un film sur la danse, sur la transe, sur la musique. C'est l'histoire d'une école de danse hantée. Et là aussi, on s'y attendait pas. Et ben, c'est un film sur le fascisme. C'est un film sur la montée du fascisme, sur le pouvoir qu'on a en nous. Et ce pouvoir, ben, qu'est-ce qu'on en fait? Le pouvoir des sorcières, le pouvoir de la danse, le pouvoir de l'art. De l'autre côté, dans Harry Potter, ben, le pouvoir magique. De la magie noire. En fait, ces deux films-là font un état des lieux de l'époque et de la montée des extrémismes. Deux films d'auteur, en fait, parce que en fait, le précédent Harry Potter était déjà un film d'auteur. Mais là, vraiment, on est sur une sorte de transformation du cinéma d'auteur en cinéma vénère politique
et
d'aujourd'hui.
Ben voilà un week-end qui s'annonce bien. Merci,
ça sort mercredi prochain.
Merci Renan, ce sera mercredi. Bon, on a de quoi se calmer pour le week-end. Bien. Bomchello, nous sommes vendredi, c'est le jour pour moi d'aller voir si le magnéto, le grand n'importe quoi d'Alexandre Verret a bien été livré à la cave. J'y vais de ce pas. Qu'est-ce que c'était là? Qu'est-ce que c'est? Ah, ben le voilà. Le voilà. Oui, voilà, arrêtez-vous. Merci. Et j'avais pas demandé une carte fromage.
Eh bien, c'est simple. D'après nos calculs...
N'importe quoi.
Oh, tu sais, Pinocchio, tu as été un très vilain petit garçon. Eh ouais.
Ping-pong, circulate.
Mais comment elle s'arrête cette photocopieuse? Ah bon sang, mais comment elle s'arrête cette photocopieuse? Ah bon sang,
attends,
mais comment elle s'arrête cette photocopieuse?
Attends, bouge pas, je vais t'aider.
Ah bon sang, mais comment elle s'arrête cette photocopieuse?
Attends, bouge pas, je vais t'aider.
Comment elle s'arrête cette photocopieuse?
Attends,
bouge pas, comment elle s'arrête cette photocopieuse?
Merci Alexandre Verret, votre dose de n'importe quoi, c'est tous les vendredis dans Pop Pop Pop. Oh, mais pendant ce temps, Bomchello s'est installé sur la scène mythique de Pop 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 pour nous jouer en live le morceau Everyday. Messieurs, si vous êtes prêts, ce sera juste après mon pop. Vous êtes prêts? Ok, attention. C'est parti.
Everyday, I go to work. Work, work, every day I get work done, every day now I get work done.
Switch off, turn on the light, show me some light.
Cello, Monster Talk, votre huitième album sort aujourd'hui même et j'en profite pour annoncer que vous serez en concert à la Maroquinerie le 12 novembre, le 10 décembre, le 14 janvier et le 4 février prochain. Lundi dans Pop Pop Pop, Riyad Satouf.